Bonjour à toutes et à tous. Même si ces deux dernières semaines n'ont pas donné cette impression, c'est l'été. Et comme il y a 2 ans, et comme l'année dernière, nous consacrons durant l'été une série de prédications à l'un des petits prophètes. Dans la Bible, ils sont au nombre de 12, et nous les appelons petits prophètes parce que leur texte est plus court que celui d'un Ésaïe, d'un Jérémie ou d'un Ézéchiel. Et cette année, en prédication, nous suivrons le livre de Joël, comme vous l'avez remarqué. Et dans les groupes de maison, les études bibliques se porteront sur le livre de Jonas. Alors juste un sondage rapide, qui a déjà lu le livre de Joël ? Et qui se souvient de son contenu ? Alors, il y a ma femme qui lève la main. Du prophète Joël, nous ne connaissons pas grand-chose, si ce n'est le nom de son père. Et les spécialistes ont des avis différents concernant l'époque de son ministère. On a du mal à dater à quelle époque a vécu Joël, à quel moment se passe tout ce qu'il raconte. Mais les spécialistes s'accordent aussi pour dire que Joël s'adresse au royaume de Juda, à une période de l'histoire où l'ancien royaume de David est déjà divisé en 2 parties. D'un côté au nord, le royaume du nord, Israël, et au sud, le royaume de Juda. Donc c'est à cette partie-là, le royaume de Juda, que Joël s'adresse. Et nous savons qu'il s'agit du royaume de Juda parce qu'il est question de Sion et donc de Jérusalem. Et en fait, il arrive quelque chose de terrible à ce royaume. D'où l'extrait que nous venons de lire et qui comporte un appel de Dieu à revenir à lui. Alors que s'est-il donc passé ? Qu'est-ce que les habitants de Juda ont fait ? Eh bien, c'est tout l'objet du chapitre 1 et du début du chapitre 2, et nous allons en parler aussi. Le message de Dieu pour son peuple me semble assez clair. Dieu veut que son peuple revienne à lui de tout son cœur. Dieu veut que son peuple revienne à lui de tout son cœur. Et cela suppose au moins que le peuple de Juda s'est éloigné de Dieu pendant un temps. Et à qui d'entre nous cela n'est-il jamais arrivé de s'éloigner de Dieu ? Peut-être même que certains d'entre nous se trouvent en ce moment loin de Dieu, refroidis, ayant délaissé leur relation avec Dieu. Le texte d'aujourd'hui s'adresse aussi à nous, car comme le peuple de Juda, nous sommes également pécheurs. Alors, tendons l'oreille pour écouter ce que Dieu veut manifestement nous dire aujourd'hui. Pour comprendre ce qui s'est passé, il nous faut d'abord reprendre depuis le début du livre de Joël. Le début de ce livre ne laisse pas de doute quant à la nature du fléau qui frappe le peuple de Dieu. Il s'agit d'une invasion de sauterelles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce phénomène, une invasion de sauterelles. En tout cas, je vous propose de visionner cette courte vidéo, et peut-être que j'aurai besoin qu'on l'active depuis la régie, simplement pour voir à quoi cela ressemble. Alors ici, c'est plutôt une invasion de criquets, mais vous pouvez imaginer que c'est la même chose. Une vidéo. Ok. Ah oui, bah on a des soucis de connexion, donc forcément. Mais juste pour vous imaginer un petit peu, une invasion de sauterelles, des millions, des milliards de sauterelles qui envahissent des hectares de champs. Et vous savez de quoi se nourrissent les sauterelles ? De végétation, de tout ce qui pousse du sol. Et vous imaginez cette invasion de sauterelles qui dévore tout sur son passage. Et qu'est-ce qu'il reste après ? Rien. Maintenant que vous visualisez un petit peu mieux, je l'espère, à quoi ressemble ce fléau, voyons dans le texte biblique comment cette catastrophe nous est présentée. Et je ferai à partir de là trois observations. Est-ce qu'on peut juste avancer ? Voilà. Lisons d'abord quelques extraits du chapitre 1. « Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres ? Racontez-le à vos enfants, que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. » Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Et puis un peu plus loin, le verset 7, « Il a dévoré ma vigne, il a dévoré mon figuier, il l'a dépouillé, abattu, les rameaux de la vigne ont blanchi. » Et verset 10 à 12, je pense qu'il n'y a plus de pile. « Les champs sont dévastés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le vin nouveau est perdu, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons se lamentent à cause du blé et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est desséchée, le figuier flétri, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont desséchés. La joie a cessé parmi les hommes. » La première observation que nous pouvons faire, c'est qu'un tel fléau est dévastateur. Une invasion de sauterelles, ça ne vous laisse rien au niveau de la végétation, rien au niveau des champs, rien au niveau des fruits et de tout ce que vous espériez récolter. Tant d'heures à cultiver le sol, tant de peines pour rien. Il y a de quoi se lamenter, n'est-ce pas ? Et pour un peuple qui dépend de ses récoltes pour vivre, c'est un désastre. Dans notre société occidentale, les assiettes se remplissent assez facilement, sans que nous ayons à travailler nous-mêmes la terre. Alors il y a peut-être parmi nous des personnes qui entretiennent un potager, mais leur vie n'en dépend pas. Nous avons donc du mal à imaginer les terribles conséquences pour les hommes et les femmes de cette époque. Cependant, admettons que vous travaillez dur, avec des heures supplémentaires, et qu'au bout du compte, vous ne receviez rien à la fin du mois, 0 euro, pour toutes les heures de travail que vous avez passées. Là, peut-être que nous comprenons mieux ce que représente de perdre ses récoltes. Comme il ne reste plus rien après le passage des sauterelles, il n'y a même plus de ressources pour les offrandes apportées à Dieu. Et tout ce qui reste au peuple, ce sont ses lamentations. Regardez le verset 13. « Prêtres, couvrez-vous de sacs et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit habillés de sacs, serviteurs de mon Dieu, car les offrandes végétales et liquides ont été retenues loin de la maison de votre Dieu. » Proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. Rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Tout ce qui reste à ce peuple, ce sont ses lamentations. Deuxième observation, ce fléau arrive au peuple de Juda, c'est-à-dire au peuple de Dieu. Alors comment cela est-il possible que cela arrive au peuple de Dieu ? Eh bien, dans la loi transmise par Moïse, Dieu avait déjà prévenu son peuple qu'en cas de désobéissance, en cas de rupture de l'alliance que Dieu avait établie avec son peuple, eh bien, toutes sortes de malédictions s'abattraient sur lui. Dieu avait déjà prévenu son peuple à ce sujet. En cas de désobéissance, toutes sortes de malédictions s'abattraient sur lui. Et pour celles et ceux qui ont étudié Deutéronome chapitre 28, en groupe de maison, vous vous souvenez peut-être de ce texte. Deutéronome chapitre 28, verset 15. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, en respectant et mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Et puis un peu plus loin, les versets 38 et 39 qui nous parlent de ce fléau dont il est question dans Joël. Tu répandras beaucoup de semences sur ton champ et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes, tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, ni ne feras de récolte, car les vers la mangeront. L'avertissement de Dieu est donc sérieux. Ce fléau qui touche le peuple de Juda vient donc de Dieu. Cette invasion de sauterelles vient donc de Dieu. C'est une malédiction qui frappe ce peuple parce qu'il a désobéi à Dieu. Alors le reste du texte de Joël ne précise pas la faute commise par le peuple. Mais en tous les cas, face au péché, Dieu montre qu'il n'est pas indifférent. Au contraire, il accomplit sa justice. Au contraire, il manifeste sa colère. Et cette invasion de sauterelles est à plusieurs endroits comparée à une armée en marche, un instrument du jugement de Dieu contre son peuple. Et j'en viens à ma troisième observation. Et je suis ici la lecture de Sylvain Roberowski, selon laquelle la suite du texte décrit le même fléau, cette invasion de sauterelles, précédée d'un temps de sécheresse. Alors on pourrait se demander, est-ce que c'est une simple répétition ? Est-ce que l'auteur dit deux fois la même chose ? Eh bien, en réalité, nous notons à partir du verset 15 qu'il y a un thème majeur qui parcourt tout le livre de Joël. Et ce thème, c'est le thème du jour de l'Éternel, ou du jour du Seigneur. Je vous propose de regarder dans le texte comment ce jour, le jour de l'Éternel, est décrit. D'abord au verset 15, « Quel jour terrible ! Oui, le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. » Et puis de même au chapitre 2, verset 1, « Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard. » Et puis le verset 11, « L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense, et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le supporter ?» Dans notre texte, ce jour est présenté comme imminent. Au verset 15 d'abord du chapitre 1, et puis au verset 1 du chapitre 2, ce jour est présenté comme imminent, il est proche. Et puis au verset 11, nous voyons que ce jour est arrivé. Les sauterelles sont passées par là et ont accompli l'ordre du Tout-Puissant. Le jour de l'Éternel est donc un jour où Dieu déverse sa colère, où Dieu juge les pécheurs, et ici en l'occurrence, il s'agit de son propre peuple. Et comment pourrait-il en être autrement ? Ce jour qui fait trembler les habitants, comment pourrait-il en être autrement si c'est le jour où l'Éternel exerce son jugement ? Et dans les chapitres 3 et 4, que nous verrons dans les semaines suivantes, ce thème du jour de l'Éternel sera repris pour désigner le jour où Dieu réglera ses comptes avec ses ennemis, avec tous ceux qui l'ont rejeté, avec tous ceux qui s'en sont pris à son peuple qui lui est cher. Ce jour-là, il n'y aura pas de retour en arrière. Le Seigneur livrera son verdict final. Alors pour résumer, concernant le fléau de ces sauterelles, eh bien le fléau qui nous est décrit dans les chapitres 1 et 2 est présenté comme un jour de l'Éternel, qui anticipe sur le jour final de l'Éternel. Et de ce fait, nous dirons avec Sylvain Romerowski qu'il y a plusieurs jours de l'Éternel dans l'histoire, avant le jour final où il sera trop tard. Trop tard pour quoi ? Trop tard pour revenir au Seigneur. Donc il y a plusieurs jours de l'Éternel dans l'histoire qui anticipent sur le jour final où il sera trop tard pour revenir au Seigneur. Mais pour les contemporains du prophète Joël, et pour nous aujourd'hui, il est encore possible de revenir à Dieu tant que sa patience et sa grâce le permettent. C'est la leçon principale qu'il faut retenir. Il est encore possible de revenir à Dieu tant que sa patience et sa grâce le permettent. Et c'est Dieu qui lance lui-même cet appel à revenir à lui, à se repentir. Cet appel qui vient de Dieu. Et justement, nous en venons au message qui accompagne cette dévastation qu'a connue le peuple de Juda. Et je cite encore une fois Sylvain Rowerski à ce sujet. Et il le dit plutôt de manière générale. Les prophètes soulignent bien que les châtiments divins ont un but pédagogique et visent à ramener son peuple à lui ou interpellent le monde pour qu'il se repente. Les châtiments divins ont un but pédagogique et visent à ramener son peuple à lui ou interpellent le monde pour qu'il se repente. Chaque catastrophe naturelle, chaque pandémie devrait nous amener à réfléchir. Ce ne sont pas des événements qui arrivent par hasard, surtout pas dans un monde marqué par le péché. Dieu montre par là qu'il ne ferme pas les yeux sur le péché. Nous n'avons sans doute pas encore tiré toutes les leçons de la pandémie que nous vivons. Mais nous constatons que dans le meilleur des cas, la pandémie a orienté les hommes vers la repentance. Et je connais personnellement un des jeunes que j'avais suivi dans mon ancienne église. Pendant des années, il n'a pas cru en Jésus. Il y avait dans son cœur des résistances, des doutes, des questions, malgré tous les enseignements qu'il entendait. Mais lorsque la pandémie est survenue l'année dernière, il a pris conscience qu'il était temps de se réconcilier avec Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est repenti. Oui, dans le meilleur des cas, les jours de malheur font réfléchir et des hommes et des femmes viennent au Seigneur. Et gloire à Dieu pour cela. Revenons à notre texte de Joël. Dieu adresse cet appel à son peuple pour que ce dernier interprète correctement la catastrophe qu'il vient de subir et qu'il adopte la bonne attitude, la seule attitude qui convienne en de pareilles circonstances. Et donc cela rejoint le texte que nous avons lu, que David a lu pour nous. Je relis les versets 12 et 13. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Déchirez votre cœur et non vos habits et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Dieu appelle son peuple à revenir à lui, à se détourner de ses péchés. Non, Dieu n'est pas d'accord avec la mauvaise voie qu'emprunte son peuple. Et revenir à Dieu doit être une démarche sincère qui implique tout son cœur. La semaine dernière, dans sa prédication, Éric Pirès a longuement parlé du cœur, qui est à la fois le siège de nos sentiments, de nos motivations, de notre volonté, de notre intelligence. Que ce soit pour aimer Dieu ou pour revenir à lui, Dieu demande à son peuple de le faire de tout son cœur. Et Dieu ajoute ici, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Dieu demande un retour sincère. Et regardez encore cette image forte au verset 13. Déchirez votre cœur et non vos habits. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas tendance à déchirer nos habits. Mais à l'époque, en signe de deuil, on déchirait ses vêtements. Mais Dieu ne demande pas cela. Dieu demande d'abord un déchirement intérieur. Le retour à Dieu, autrement dit la repentance, est d'abord et avant tout une attitude du cœur, une attitude intérieure. revenez à l'Éternel, votre Dieu. Oui, Dieu a exercé son juste jugement, c'est ce qui est arrivé avec cette invasion de sauterelles. Et vous pouvez imaginer les champs dévastés, vous pouvez imaginer la ville de Jérusalem couverte par ces insectes. Mais le peuple peut encore revenir à l'Éternel, car il sait que Dieu fait grâce. Car il sait que Dieu est rempli de compassion, qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Et c'est ainsi que Dieu s'est révélé à Moïse, en Exode 34, verset 6. À ce moment-là, c'était juste après l'épisode du veau d'or, où le peuple était tombé dans l'idolâtrie. Là aussi, Dieu a exercé son jugement contre les coupables. Mais combien la bonté de Dieu est immense pour permettre à celles et ceux qui reconnaissent leur tort devant Dieu d'être pardonnés. La bonté de Dieu est immense. Oui, la correction de Dieu vise à nous faire revenir à lui. Mais c'est son caractère en tant que Dieu rempli de compassion qui doit nous inciter à cette démarche, qui doit nous pousser à venir à Dieu. C'est parce que Dieu est bon. Et il est même dit ici, à la fin du verset 13, qu'il regrette le mal qu'il envoie. Dieu peut-il avoir des regrets, comme s'il s'était trompé dans son jugement ? Il semble que nous ne pouvons pas dire cela d'un Dieu parfait. Dieu n'a pas de regrets, comme s'il s'était trompé dans son jugement. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il regrette le mal qu'il envoie ? Eh bien, l'expression employée est suffisamment forte pour nous faire comprendre que Dieu ne déchaîne pas sa colère d'une manière incontrôlée, mais qu'il sait arrêter le fléau quand il voit le changement d'attitude chez son peuple. Cependant, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas du donnant-donnant. Je me repens et il arrête tout. Et c'est pour cela que j'aime particulièrement le verset 14. Qui nous maintient dans l'humilité. Après avoir appelé le peuple à revenir à lui, verset 14, qui sait ? Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel, votre Dieu. Peut-être regrettera-t-il. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous revenez à Dieu que automatiquement Dieu regrette le mal qu'il envoie. Cela nous rappelle que le pardon que Dieu accorde est toujours une grâce. Rien dans notre attitude n'oblige Dieu à nous pardonner. Rien. Nous méritons plutôt sa colère et son jugement, et non sa grâce et sa bonté. Mais nous avons décrit son caractère, le caractère du Dieu que nous adorons. Le caractère de Dieu tel qu'il se révèle à nous. C'est un Dieu plein de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Et cela nous fait espérer qu'il tiendra compte de notre retour à lui. Est-ce que cet appel de Dieu à revenir à lui t'interpelle cet après-midi ? Dois-tu revenir à lui de tout ton cœur ? Je ne sais pas pour tous où vous en êtes avec le Seigneur, mais si vous entendez son appel, il est toujours temps de revenir à lui, d'implorer sa grâce, de demander pardon. Parfois, ce retour à Dieu se fait dans les larmes, quand nous voyons toute la laideur de notre péché, et aussi les conséquences du mal que nous avons commis, la souffrance que cela a pu générer. Oui, parfois, notre repentance s'accompagne de larmes. Parfois, nous avons peut-être déjà demandé pardon à Dieu pour un péché en particulier. Et peu de temps après, nous avons recommencé à commettre ce même péché. Et souvent, ce sont de mauvaises habitudes ancrées dans notre quotidien. Oh, combien le péché est tenace dans notre vie. Et cela est décourageant, n'est-ce pas ? De demander pardon à Dieu pour un péché et de recommencer derrière. Mais cet après-midi, si vous deviez retenir un verset, ce serait le verset 13. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Ne vous lassez pas de revenir constamment à Dieu, car il est bon, car il est patient avec nous. Il est patient avec notre lenteur à changer. Ne vous lassez pas de revenir constamment à Dieu. Oui, parfois nous chutons, parfois nous recommençons à tomber encore et encore dans les mêmes travers, mais ne laissons pas le péché avoir le dernier mot. Revenons à Dieu, autant de fois que cela est nécessaire. Et ce n'est pas seulement l'enseignement de notre texte, mais dans le Nouveau Testament, nous sommes aussi exhortés à revenir à Dieu, à reconnaître nos péchés. Et ce verset qui est peut-être bien connu de certains d'entre vous, 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés. Il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Dieu est fidèle et juste. Dieu fait grâce. Dieu est plein de compassion. Et nous avons dans ce verset de 1 Jean l'assurance que Dieu nous accordera son pardon. Alors pourquoi ici il n'y a pas de peut-être ? Parce que quelqu'un a déjà payé pour nos fautes, en mourant à notre place. Tout à l'heure, nous l'avons chanté également. Quelqu'un a déjà payé en subissant le châtiment que nous méritions, en offrant le sacrifice parfait. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de peut-être. Jésus a fait cela pour nous. Mes amis, ne nous lassons pas de revenir à Dieu encore et encore et de lui demander pardon de tout notre cœur et plusieurs fois par jour si cela est nécessaire. C'est Dieu qui nous le demande. Nous ne le faisons pas religieusement. C'est Dieu qui nous le demande. Et l'appel à revenir à lui montre que ce qui compte pour Dieu, c'est sa relation avec son peuple. Pourquoi Dieu tient tant à ce que son peuple revienne à lui ? Pour que cette relation qu'il a avec son peuple soit rétablie. Nous avons vu jusque-là que l'Éternel a non seulement frappé fort pour châtier son peuple, qui s'est détourné de lui, mais il a aussi envoyé son prophète Joël pour interpeller le peuple, afin qu'il revienne à Dieu de tout son cœur. Et il semblerait que le peuple, dans son ensemble, petits et grands, est écouté Joël. Et même si cela n'est pas dit explicitement ici, le chapitre 2 se termine sur une tonalité positive. Et c'est ce que je vous propose de voir dans ce dernier temps, une grâce qui vient de Dieu. Dans la dernière partie du texte, Dieu témoigne de nouveau sa faveur à son peuple. Effectivement, Dieu fait grâce. Effectivement, Dieu est fidèle à lui-même. Effectivement, Dieu aime son peuple, malgré ses infidélités. Et c'est ce que nous lisons au verset 18. L'Éternel aime jalousement son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, « Je vous enverrai le blé, si vous vous souvenez un petit peu de tout ce qu'ils ont perdu. Je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasiés et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. » Dieu fait grâce. Dieu bénit de nouveau son peuple, conformément aux termes de l'Alliance. Bénédiction s'il marche dans ses voies et malédiction s'il rompt l'Alliance et se détourne de Dieu. Ce sont les termes du contrat. Mais puisque le peuple semble être revenu à Dieu, l'Éternel met un terme au fléau qu'il avait envoyé contre son peuple et compense même ce qui a été perdu. Et ce fléau, cette invasion de sauterelles qui avait touché autrefois l'Égypte du temps de Moïse. Est-ce que certains se souviennent comment Dieu s'est débarrassé de ces sauterelles ? Alors, il y a eu un coup de vent et puis ces sauterelles ont fini à la mer. Si nous lisons dans Exode chapitre 10, verset 19, l'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il ne resta pas une seule sauterelle sur tout le territoire de l'Égypte. Et il se trouve que dans notre texte de Joël, il y a aussi une référence à ce que Dieu fait pour ces sauterelles, au verset 20 de notre texte de Joël. « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde dans la mer Méditerranée. » Dieu met un terme au fléau qu'il a envoyé à son peuple. Dieu fait grâce et Dieu fait de grandes choses. C'est ce que nous lisons au verset 21. L'heure n'est plus à la lamentation, mais à la réjouissance, car Dieu bénit de nouveau. Et je lirai simplement ces quelques bénédictions qui nous sont énoncées. Et vous allez voir que finalement, c'est le renversement de tout ce qui s'était produit jusque-là. Car les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Car il, le Seigneur, vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Et puis ce verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je remplacerai ces années. Je compenserai vos pertes. » Le peuple avait subi de grandes pertes matérielles et alimentaires. Et désormais, Dieu restaure, Dieu accorde de nouveau l'abondance. Et au-delà de ces bénédictions matérielles, le plus important est que la relation entre Dieu et son peuple est rétablie. La relation entre Dieu et son peuple est rétablie. Dieu est de nouveau au milieu d'Israël. Et c'est pour ça que nous lisons ces derniers versets du chapitre 2. « Vous mangerez et vous vous rassasirez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » La plus grande bénédiction du peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est sa présence au milieu de son peuple. La relation normale entre Dieu et son peuple devrait être l'harmonie, la communion. Mais parce que l'être humain est pécheur, naturellement rebelle à Dieu, cette harmonie est régulièrement brisée, même par le peuple que Dieu s'est choisi. Et Dieu aime son peuple. Et Dieu aime son peuple et le corrige en vue de rétablir cette relation harmonieuse avec lui. Et quelle grâce que notre Dieu ait de telles dispositions à notre égard. Je trouve incroyable et merveilleux à la fois que Dieu prenne la peine d'aller chercher son peuple égaré, de lui demander de revenir à lui. Et qu'en tenant compte de son retour sincère, il accorde son pardon et le bénisse de nouveau. Je trouve cela incroyable de la part de notre Dieu, qu'il fasse cela au lieu de nous laisser nous égarer. Et dans tout cela, vous remarquez que c'est Dieu qui prend l'initiative, parce que l'homme pécheur ne saurait revenir de lui-même à Dieu. L'homme a besoin d'être réveillé parfois. Il a besoin d'être interpellé. Parfois, cela passe par un fléau, par des circonstances difficiles, mais aussi par la parole de Dieu, par son appel « Revenez à moi ». Il me semble que cette dernière partie du texte nous montre que Dieu prend plus de plaisir à bénir qu'à châtier. Dieu prend plus de plaisir à bénir qu'à châtier. Et cela rejoint ce verset d'Ézéchiel 18, où Dieu dit « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ?» demande le Seigneur l'Éternel. « Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive ?» Tel est notre Dieu. Notre Dieu ne prend pas plaisir à voir mourir le méchant. Mais il désire qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. Dieu veut que son peuple revienne à lui pour rétablir la relation rompue par le péché. Et nous qui connaissons le Seigneur, tenons-nous autant à cette relation avec Dieu? Est-ce que les jours passent sans que cela n'ait d'importance? Que faisons-nous de la grâce que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ? Que faisons-nous de son pardon accessible dès aujourd'hui si nous revenons à lui? Et puis, sommes-nous intéressés par ses bénédictions ou par celui qui les donne généreusement? Oui, dans sa grâce, Dieu nous a épargnés. Son jugement et sa colère ont été dirigés contre Jésus, qui a porté dans son corps nos péchés. Et si tu n'as pas personnellement pris la décision d'être en relation avec le Dieu de grâce, sache que la porte est ouverte. Ce Dieu qui a compassion de nous, de notre misère, de notre incapacité à venir à lui, peut aussi te sauver de ta misère si tu fais le choix de vivre entièrement pour lui, en renonçant à ta vie sans lui, en renonçant à ce chemin qui mène à la mort. Car c'est tout ce que le péché peut nous apporter dans notre vie, la mort. Et seul un Dieu plein de compassion peut sauver l'être humain de sa folie de vivre sans lui. Église de Saint-Maur, veux-tu de cette relation avec Dieu? Veux-tu de cette bénédiction de Dieu au milieu de son peuple? Si oui, renonce constamment à ton péché et reviens constamment à ton Dieu. En conclusion, je dirais combien notre Dieu est extraordinaire. Ce qu'il est dépasse nos attentes. Et le message que Joël adresse au peuple de Juda est clair. Dieu veut que son peuple revienne à lui de tout son cœur. Et Dieu fait ce qui est nécessaire pour que la relation soit rétablie. Et nous avons vu d'abord que le fléau qui vient de Dieu sert à interpeller le peuple rebelle, désobéissant. Deuxièmement, que l'appel qui vient de Dieu concerne un retour sincère de notre part, une confiance dans sa bonté. Et puis troisièmement, la grâce qui vient de Dieu montre combien Dieu prend plaisir à bénir, à être au milieu de son peuple. En Christ, par sa mort et sa résurrection, Dieu a fait le nécessaire pour que celles et ceux qui croient en lui fassent partie de son peuple. Ce peuple que Dieu chérit tant, qu'il corrige parce qu'il l'aime. Ce peuple à qui il fait grâce jour après jour. Ce peuple qu'il a racheté à grand prix et qu'il ne compte pas délaisser. Ce peuple dont nous faisons partie et qui apprend jusqu'à aujourd'hui à revenir à Dieu, à renoncer à ses péchés et à vivre dans la communion avec son Dieu. Amen. Je vous invite à prendre un temps, peut-être saisir l'occasion justement, de revenir à Dieu. Si durant cette prédication, en entendant la parole de Dieu, Dieu a éveillé en vous ce qui n'allait pas, un péché peut-être pour lequel il faut demander pardon, eh bien j'aimerais vous donner à présent l'occasion de pouvoir revenir à Dieu, d'avoir cette démarche de repentance, non pas en déchirant vos vêtements, mais en déchirant votre cœur. un retour sincère. Et si vous savez qu'il y a des choses à abandonner dans votre vie, eh bien, approchez-vous de Dieu et demandez-lui de vous aider à vous en débarrasser. Notre Père, nous te louons parce que tu fais grâce, parce que tu es rempli de compassion, parce que tu es lent à la colère et riche en bonté. Et que cela nous donne tellement d'espoir par rapport à notre situation. Parce que cela signifie que, oui, nous pouvons véritablement revenir à toi et que véritablement, Seigneur, ton pardon nous est accordé. Non pas parce que nous sommes meilleurs ou experts dans la repentance, mais parce que nous reconnaissons notre insuffisance et que surtout nous reconnaissons que Jésus a tout accompli pour que le pardon soit possible. Et c'est quelque chose dont nous allons aussi nous remémorer durant le moment de Sainte-Cène. Oui, merci Seigneur, parce que ta grâce est tellement grande, ta bonté tellement immense, et que tu nous invites, tu nous appelles encore cet après-midi à revenir à toi de tout notre cœur. Surtout si nous avons pris d'autres chemins, des chemins qui ne te plaisent pas. Oui, Seigneur, veuille nous pardonner. Veuille nous accorder encore ta grâce. Veuille nous accorder encore la joie de vivre cette relation de proximité avec toi. La joie de pouvoir savoir que tu es présent au milieu de nous. Et merci pour ta parole, parce que c'est par ta parole que tu nous interpelles encore. Merci pour ce temps de grâce où il est encore possible de revenir à toi. Et nous prions également pour celles et ceux dans notre entourage peut-être, qui ne sont pas venus à toi. Nous te prions également que tu leur fasses grâce, que tu les interpelles et qu'ils puissent saisir cet appel de pouvoir être en relation avec toi parce que tu pardonnes. Et tu pardonnes véritablement. Et nous voulons te remercier pour cela parce que nous pouvons de nouveau relever la tête et te louer. Au nom de Jésus. Amen.